J'avais oublié qu'on pouvait consoler les vagues qui s'échouent et les objets perdus qui attendent qu'on vienne les chercher. J'avais oublié qu'on pouvait lister les mots qui brillent, les choses sans odeur et les raisons de se transformer en fleurs. J'avais oublié qu'on pouvait déplacer les nuages pour laisser le soleil briller et patienter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à attendre. J'avais oublié toutes ces choses qui font de la réalité un endroit qui me ressemble, qu'il suffisait d'ouvrir mon regard pour me l'approprier. J'avais oublié que c'était beau.
J'avais oublié que c'était beau, c'est le titre d'un carnet d'expérience poétique signé Adrien, poète et instagrammeur qui a donc décidé de faire rimer poésie et réseaux sociaux. Bonjour Adrien.
Bonjour Pascal.
Un prénom et pas plus.
Non, un prénom et pas plus pour diviser mes différentes vies et pouvoir m'assumer en tant que poète.
Mais est-ce que c'est parce que la poésie n'a pas besoin non plus de s'embarrasser de papier d'identité ?
Oui, peut-être. Peu importe d'où on vient, où on va, je pense que la poésie peut s'adresser à tout le monde et que chacun peut y trouver sa voix.
Un prénom donc, Adrien, et un compte Insta. Est-ce que c'est le lieu pour faire de la poésie, les réseaux sociaux ?
Écoutez, pour moi, ça a été assez naturel. J'écris sur Internet depuis 10-12 ans. J'ai pas une culture littéraire, mais en tout cas, c'est un milieu dans lequel je n'ai pas trop baigné. J'ai baigné dans le milieu d'Internet avant. Et donc, le plus naturel pour moi, c'était pas d'envoyer un manuscrit à une maison d'édition, c'était de venir publier des mots sur Tumblr à l'époque, et après, avec le jeu des différentes plateformes, sur Instagram. Et je pense qu'il y a un vrai public. On ne s'adresse pas forcément au même public qu'on peut trouver en librairie, mais un public amoureux de jolis mots, amoureux de poésie. Et donc, si on arrive à trouver les codes pour lui parler, c'est le bon endroit.
92 000 abonnés, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Ça fait un beau tirage si c'était un livre papier.
Non, tout à fait. Je trouve que la comparaison est intéressante parce que je me fais souvent la réflexion de quand je regarde les tirages auxquels sont édités les recueils de poésie et le nombre de personnes qui en achètent réellement et les chiffres parfois vertigineux que je vois sur mon compte Instagram ou sur d'autres. Hein, je ne suis pas du tout le seul à écrire de la poésie sur Instagram. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est des centaines de milliers de personnes qui s'y intéressent. Donc, c'est parfois impressionnant, oui.
Sur ce compte, vous vous présentez, Adrien, comme faux poète. Pourquoi ?
Exactement. Bah, à l'image un peu de mon compte Instagram qui s'appelle Crottin Verbo, je crois qu'au début, mais même encore aujourd'hui, j'avais un vrai souci de légitimité. Je voulais presque pas qu'on me prenne au sérieux. Vous savez, sur Internet, on peut être très facilement jugé, en bien comme en mal. Et j'avais cette envie d'envoyer un message qui est... Surtout, ne faites pas attention à ce que je fais. J'ai envie d'écrire, j'ai envie de partager, mais ne le prenez pas trop sérieusement.
Mais faux poète, c'est comme s'il y avait des vrais poètes et des faux poètes. C'est quoi un vrai poète, alors, si vous en êtes un faux ?
C'est une formule un peu provocatrice, mais qui veut dire qu'il existe la poésie littéraire, celle de nos illustres auteurs et autrices qu'on apprend tous à l'école. Il y a des auteurs et autrices contemporains qui font vivre la poésie littéraire. Et moi, j'estime qu'il y a une autre voie pour le poétique. Et ce que j'appelle poétique, c'est toute la poésie que l'on sait reconnaître, mais qu'on ne sait pas nommer. Celle que l'on trouve quand on regarde un film qui nous émeut au cinéma, quand on écoute une musique, quand on croise un regard dans la rue, quand on est sur la plage et qu'on se laisse bercer par le bruit des vagues. C'est tout ce qui est lié à l'adjectif poétique presque que j'appelle de manière un peu provocatrice fausse poésie.
Donc un faux poète peut faire de la vraie poésie.
Il pourra peut-être un jour, mais en tout cas pour l'instant je me concentre sur la fausse poésie.
Pour vous c'est une activité quotidienne, la poésie, Adrien ?
Tout à fait pour moi. Alors l'écriture est un vecteur, la poésie est un vecteur, mais je pense que depuis tout petit j'avais envie d'exprimer un regard sur le monde. Et il passe par la poésie parce que je trouvais que c'était le domaine finalement où on était le public et les pairs étaient le plus prêts à accepter ce type de regard sur le monde.
Ce matin, vous avez écrit quoi, par exemple? Si c'est une activité quotidienne, vous avez forcément écrit?
Tout à fait. J'ai toujours quelque chose dans mes notes. C'est un peu mon mode de... ma manière de travailler. Je note un peu tout ce qui me passe par la tête. J'essaie d'en faire des petits textes.
Et tout ça sur votre téléphone, en plus. Vous n'avez pas besoin d'un cahier, d'un crayon?
Non. Je sors un carnet d'expérience, mais j'écris principalement sur mon téléphone. Oui, tout à fait.
Donc vous avez écrit quoi?
Je vais vous le lire. Je mène une vie approximative. C'est-à-dire que j'existe dans la presque réalité. Je parle à mes légumes quand je cuisine, je suis les nuages pour voir où ils m'emmènent, je fais des listes de courses qu'on ne peut faire nulle part. Je fabrique des mondes entre les gouttes. Je façonne l'intervalle entre ce que tu vois et ce qu'il y a au fond de toi. Je donne de la valeur à ces pensées qui tournent autour de ton cœur. Ensemble, on construit ce qu'il restera avant que plus personne n'y croit.
Alors ça, vous ne l'avez pas écrit ce matin parce que c'est imprimé dans le livre.
C'est vrai, j'ai un peu triché alors.
Ah, vous avez totalement triché. En tout cas, vous avez une activité débordante, Adrien, avec la parution de ce livre. Donc, j'avais oublié que c'était beau. Et une soirée dans quelques jours à la Gaîté Lyrique à Paris, soirée intitulée le Poetry Club, en anglais, dans le texte. Pourquoi?
Tout à fait. Il y a une inspiration tout à fait assumée des comédies clubs qui sont très présents à Paris. La volonté d'être aussi pas. Parfois, le mot poésie, je trouve, fait peur, peut être un peu impressionnant. Le grand public qui ne lit pas de poésie peut avoir l'impression que c'est un mot. Qu'il se passe quelque chose d'un peu guindé dans la poésie. Donc, j'avais envie de casser cette chose-là. Et donc voilà, je peux un peu parler un peu de l'événement si vous voulez. Donc le Poetry Club est organisé donc le 22 mars à la Gaîté Lyrique. Et mon idée, c'est de faire la. Alors j'invente rien avec les événements poétiques, il y en a plein, il y a plein de scènes à Paris que je pourrais citer, Mange tes mots, le bordel de la poésie, etc. Mais la vision avec cet événement, c'est de proposer un divertissement populaire autour de la poésie. Et donc la programmation est pensée en ce sens. Il y a 10 artistes qui viennent, qui proposent chacun des univers très, très différents, mais avec des textes accessibles, même si on ne lit pas de la poésie au quotidien, on peut se sentir concerné par la mélancolie, l'engagement, l'humour de ces artistes.
Donc vous êtes un faux poète, mais vous êtes quand même un activiste de la poésie.
Écoutez, j'essaie de faire mon mieux. Moi, j'estime que les réseaux sociaux sont là aussi pour ça, pour... Je m'investis dans le domaine de la poésie pour ramener un peu plus de monde à pouvoir en profiter. Et je pense que quand on multiplie les médiums, c'est pour ça qu'aussi sur mon compte, je mets du dessin, de la vidéo, j'ai pu tester plein de choses et de la voix à travers l'événement. On touche à chaque fois un public différent et après, il suffit d'être bon pour réussir à le garder.
Adrien, on prend les armes de la poésie aujourd'hui, mais j'en profite d'abord pour vous faire découvrir De Bono. C'est un duo frère et sœur qui prépare son premier album et nous en donne un avant-goût avec ce morceau à « Que c'est marrant ». De Bono sur RFI dans De Vive Voix. Est-ce que la musique vous fait rêver, vous donne à écrire, Adrien, ou au contraire, il vous faut du vide ou du silence pour faire naître la poésie ?
Je pense que je suis sensible aux deux cas de figure. J'utilise beaucoup la musique au quotidien pour me mettre dans un certain état d'esprit. J'ai des playlists un peu classées par ambiance, je dirais, quand j'ai besoin de quelque chose d'assez doux et que je sens que j'ai envie de travailler des mots qui vont tendre vers la douceur, j'ai des chansons un peu dédiées. Quand il me faut plus d'énergie, la même chose. Et parfois, j'en peux plus d'écouter de la musique, j'ai l'impression que mes oreilles vont exploser et j'ai besoin de silence pour écrire, donc c'est vraiment, vraiment les deux chez moi.
Vous dites que l'écriture poétique est un moyen de canaliser vos pensées.
Exactement. Très jeune, en fait, j'étais assez parfois enseveli sous les pensées que certains peut-être appelleraient parasites. En tout cas, voilà, un esprit qui divague, je pense que ça arrive à tout le monde. Et en fait, grâce à la poésie, j'ai trouvé vraiment un sens et une manière de les exploiter. Et voilà, de stimuler de manière vertueuse mon imaginaire.
Et aujourd'hui, cet imaginaire, vous voulez le faire partager avec ce livre. Vous proposez des exercices aux lecteurs que nous sommes, puisque c'est un carnet d'expériences poétiques. Donc si on veut se lancer, par exemple, c'est un livre assez pratique. Par exemple, en cas d'insomnie, vous proposez de faire l'inventaire des objets qui sont autour de vous et de les animer. Donc un tiroir protège les souvenirs ou un canapé aime les câlins. Ça peut être un début ?
Exactement. J'ai conçu ce carnet d'expériences poétiques comme une initiation au regard poétique, je dirais. Je n'ai pas du tout la prétention d'apprendre aux gens à faire de la poésie. Mais voilà, à travers donc 24 moments du quotidien qui sont très très communs.
Courses, vous faites de la poésie.
C'est tout à fait
avec un chariot. Exactement. Dans un supermarché, pof, ça démarre.
C'est ça. Bah, je voulais pas du tout me défiler. Je voulais vraiment me confronter à l'habitude, à l'ennui, et me dire comment on peut faire de la poésie avec ces moments-là. Et donc à chaque fois, en effet, à travers ces moments, j'en propose moi mon interprétation de poétique, si on veut, ou faussement poétique de ce moment-là. Et après, j'invite la lectrice ou le lecteur à en faire de même. Et ça, en fait, ce que je trouvais intéressant dans cet objet, parce que j'ai choisi le carnet aussi, j'aurais pu partir sur un format plus classique de recueil. Mais je trouve que le carnet avait deux vertus intéressantes. C'était d'abord qu'on co-construise avec le lecteur un objet, puisque finalement le lecteur ou la lectrice vient compléter mes pensées. Je trouvais ça intéressant d'avoir un objet.
Oui, c'est comme un carnet de révision pendant les vacances où on est obligé de compléter les histoires, les phrases, la grammaire, etc.
Exactement, c'est ça. Et puis c'est un objet, je trouve, que le carnet qu'on respecte peut-être un peu moins que le recueil. On peut déchirer, annoter, griffonner. Et j'aimais bien ça, que le format soit un prolongement finalement de ma démarche et qui s'intègre vraiment dans le quotidien des gens.
Donc la poésie au quotidien, quand on va faire ses courses, et même en se brossant les dents. Alors, il y en a qui rêvent de faire de la politique ou d'être élu président de la République. Vous faites de la poésie, point.
Exactement.
J'aimerais que vous nous lisiez, Adrien, quelques poèmes courts que l'on peut découvrir d'ailleurs sur votre compte Instagram. C'est presque des haïkus et ils sont mis en musique avec Portiched.
Chaque matin, j'aimerais voir le monde dans lequel je voulais me réveiller. Alors, j'imprime mes rêves au verso de mes paupières pour y retourner dès que j'ai les yeux fermés. Taches colorées et formes lumineuses, empreintes de mers déchaînées et de montagnes vertigineuses, je ne dors pas. J'erre là où personne ne me voit.
Quelques poèmes donc signés Adrien sur votre compte Insta Crottin Verbo. Alors là, vous venez de les lire à haute voix, mais ce n'est pas le cas sur Instagram, c'est-à-dire que l'internaute doit lire le texte. Est-ce que c'est très volontaire de votre part ? Est-ce que c'est une façon pour le lecteur de s'approprier cette poésie, ses pensées, ses émotions ?
C'est exactement ça. J'essaie de cultiver vraiment la proximité avec le lecteur et je crois que ça passe par là, par lire un texte. Je me suis essayé un peu à la lecture, mais j'aime vraiment plus le lien qui se tisse quand un lecteur s'approprie vos mots.
Mais vous êtes un bon lecteur quand même.
Je ne sais pas.
Mais si, je vous le dis. En tout cas, la poésie pour vous, elle doit être partagée. Elle doit être généreuse par principe.
Exactement. Après, ça, c'est peut-être une manière d'être. En tout cas, je ne sais pas si tout le monde a le même point de vue que moi dans la poésie. Moi, c'est quelque chose que j'ai envie de partager. Si vous voulez, la poésie m'apporte beaucoup au quotidien, dans ma vie. Elle me permet de me concentrer sur les jolies choses et de faire abstraction parfois de ce que je trouve moins joli. Et j'ai juste envie que tout le monde ressentent la même chose que moi. Donc j'essaie de le partager de tous les moyens que je peux.
Est-ce que vous avez un esprit joueur, Adrien ? Parce que je trouve qu'il y a une idée de jeu, à la fois dans ce recueil de poésie sous forme de carnet, mais aussi dans ce compte Instagram.
Tout à fait. Pour moi, l'écriture est avant tout un jeu. C'est pour ça que je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure, de je ne me prends pas au sérieux. Dans mes références absolues, je mets Georges Perec, Queneau, Loulipo. C'est vraiment cette littérature-là, moi, que j'aime. De très ludique, d'amusement, de contraintes d'écriture. Et si on parcourt un peu mon compte, je pense qu'on le voit assez rapidement. Chaque poste est une contrainte littéraire, plus ou moins, où je m'impose, par exemple, de faire des panneaux poétiques. Et donc voilà, je déroule sur 7-8 idées. Est-ce que ça pourrait être un panneau poétique ? Est-ce que pourrait être une règle imaginaire qui régit notre société ? Voilà, à chaque fois, il y a une petite contrainte qui s'applique. Et voilà, en effet, le jeu, moi, je m'amuse quand j'écris.
Et vous qui parlez à vos légumes, vous inventez des noms de légumes, par exemple, qui n'existent pas.
Par exemple.
Donc ça fait des drôles de listes de courses.
Tout à fait, exactement.
Alors, il y a un autre poète qui aime le jeu, qui s'appelle Arthur Théboul, qui est plus connu sous le nom de Feu Chatterton, car il fait aussi de la musique, qui a publié l'an dernier son premier recueil de poésie, Le Déversoir. Et il a créé aussi un cabinet de consultation poétique où il propose des poèmes minutes.
En fait, on a tous un murmure dans la tête tout le temps. Ce qui est difficile, c'est de l'accepter et de l'entendre et puis de l'écrire. Alors, je propose de penser à un nom commun, n'importe lequel. Et maintenant, il y a un adjectif qui vient. Il faut l'accepter. L'idée, c'est plutôt d'accepter de ne pas avoir d'attente. Parce que le problème de ce jeu-là encore, c'est que vous aviez une attente de trouver une association insolite. Mais en fait, cette association qui n'est pas insolite, c'est la vôtre maintenant. Alors, elle convient. Et accepter cette vérité de l'instant, de ce qui traverse l'esprit à l'instant, c'est ça l'automatisme. C'est pas forcément faire une trouvaille hors du commun, c'est déjouer les attentes.
Adrien, êtes-vous proche de ce que dit Arthur Théboul ?
Tout à fait, je suis de très près son travail, c'est une personnalité que j'aime beaucoup. On a eu l'occasion d'échanger plusieurs fois, je trouve que son... L'initiative est un peu inspirée de ce qui se faisait au temps du surréalisme, de Déversoir, est très, très intéressante, ramène justement la poésie dans le quotidien. Je trouve que l'idée est géniale d'ouvrir un lieu, de faire venir les gens pour...
Oui, puis d'avoir une imagination décomplexée, ça ce sont vos mots. C'est important de ne pas se créer des barrières et de se laisser aller finalement à ses propres émotions et à ses associations. Qu'elle soit banale ou pas d'ailleurs, ou extraordinaire ou pas.
Je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça que je pense que ça marche aussi bien sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une volonté dans une certaine jeunesse aussi qui est coincée dans des émotions contradictoires et elle a besoin d'exprimer ce qu'elle ressent à la fois pour voir s'il y a d'autres personnes qui ressentent la même chose et pour se sentir mieux et se réapproprier un petit peu la réalité finalement. L'imaginaire sert à ça.
J'avais oublié que c'était beau, c'est le titre donc de ce carnet d'expériences poétiques. Ça fait un peu nostalgique. C'est un peu « Ah, c'était mieux avant, j'avais oublié que c'était beau ». Vous avez vraiment oublié dans votre vie que c'était beau, que le ciel c'était beau, que la mer pouvait être magnifique, les oiseaux aussi, etc. Vous vous êtes perdu avant d'arriver à la poésie ?
Peut-être à un moment donné, je crois que j'ai, dans ma vie de jeune adulte, j'ai longtemps recherché le regard que j'avais lorsque j'étais enfant. Et ce titre, il évoque un peu ça. Et c'est plus un message pour le lecteur. Moi, aujourd'hui, je pense avoir la chance d'avoir trouvé une bribe de regard poétique qui me permet de me sentir mieux. Et donc voilà, je propose aux lecteurs et lectrices de se rappeler que c'était
Mais vous
bon.
Êtes nostalgique dans la vie ?
Non, pas tellement. Pas plus non, que ça. Je suis plus dans le présent.
Alors, cette parution, ce livre, la soirée du Poetry Club qu'on a évoqué tout à l'heure, s'inscrivent dans un événement plus vaste qui s'appelle le Printemps des Poètes et qui a d'ailleurs donné lieu à une belle polémique il n'y a pas très très longtemps, puisque un peu plus de 1200 personnes, auteurs, éditeurs, ont signé une pétition contre le parrain de cette édition, Sylvain Tesson, présenté comme une icône réactionnaire. Vous vous êtes positionné comment ? Vous avez signé ?
Je n'ai pas signé et je ne me suis pas vraiment positionné publiquement, mais mon avis sur la question, il est le suivant. Je pense que dans le milieu de la poésie, il y a vraiment, je ne vais pas dire deux camps, mais en tout cas deux visions de ce que doit être la poésie. Il y a une vision peut-être un peu plus traditionnelle, qui invoque souvent les grands auteurs, les grandes autrices, qui a une vision très pure de la poésie. Et il y a une avant-garde progressiste qui ne se retrouve pas dans certaines idées peut-être véhiculées par Sylvain Tesson. Et donc, il a été au centre ouais, de cette polémique et finalement qui a desservi, je trouve, un petit peu le Printemps des Poètes, parce que là, ça fait quelques jours que ça a été lancé et je trouve que l'écho est moins important que les années précédentes.
Mais c'est vrai que sa directrice, Sophie Nolot, a été contrainte à la démission. Philippe Tesson s'est montré très discret et ce 25e anniversaire n'est pas du tout fêté et célébré.
Je suis d'accord. Donc on va essayer de faire parler du Poetry Club pour compenser.
Néanmoins, on peut écouter Sylvain Tesson qui, sur la poésie, dit ceci.
Nous avons un seul trésor, tous en commun, en partage, qui socialement, c'est la seule égalité, c'est les 26 lettres de l'alphabet. C'est quand même pas très compliqué d'apprendre à lire. Il faut pas qu'on nous raconte que la poésie soit destinée uniquement à une élite qui veut se transmettre une culture extrêmement sophistiquée et raffinée qui permettra aux bourgeois de continuer à avoir le pouvoir. Ça, c'est dégueulasse. Parce que c'est une imposture, c'est une illusion. Parce que précisément, avec 26 lettres et avec des mots, on peut tout à coup dire le monde. On peut regarder un coucher de soleil et savoir qu'un jeune garçon à 16 ans a dit « Elle est revenue. Quoi ? L'éternité, c'est la mer allée avec le soleil. » Ben ça, pardon, mais tout le monde le comprend. Et c'est affreux de dire « Oui, mais vous comprenez, ce que vous dites là est élitiste. » Non, ça n'est pas élitiste d'apprendre avec 26 lettres, comme a fait le mot « martyr » à redire le monde.
Le mot Arthur, c'est bien sûr Arthur Rimbaud. Vous réagissez comment, Adrien, à ce qu'il dit ? C'est assez juste, c'est un peu grandiloquent, mais le personnage est grandiloquent, de toute façon, Sylvain Tesson.
Non, je ne dis pas que je ne partage rien avec Sylvain Tesson. Hein. Je pense qu'on peut partager une certaine vision de la poésie. Après, moi, j'avoue que j'ai lu certains de ses livres, mais je ne suis pas expert dans ce qu'il pense ou dans ses prises de position politiques par ailleurs. Oui, sur cet extrait-là, en tout cas, je peux être que d'accord avec ce qu'il dit.
En tout cas, Rimbaud est aussi votre référence, si j'en crois le dernier mot de votre livre, puisque vous dites « beau, 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 Rimbaud ». Donc vous partagez un peu l'amour de Rimbaud.
Oui, non, tout à fait. C'est pareil, en fait, je pense qu'il y a... Moi, je vis dans un monde de nuances, dans tous les cas. J'aime la poésie du quotidien, mais j'aime aussi les grands auteurs, et c'est pas du tout antinomique.
Vous parliez de la scène poétique française. Elle est vraiment très active ou c'est vraiment réduit à des niches ?
Je la trouve très active, rien qu'à Paris. Il y a au moins 3-4 scènes qui tournent une à plusieurs fois par mois et dans lesquelles on peut se rendre assez facilement. Je pense qu'elle manque parfois un peu de structure, de moyens aussi. Et donc, ce qu'on essaye de faire là aussi avec le Poetry Club, c'est de mettre un peu la lumière sur ce type d'événement pour amener de l'intérêt du public. Et c'est comme ça que l'on pourra structurer et développer cette scène qui a beaucoup de qualité. En tout cas, il y a beaucoup de poètes et de poétesses en France talentueux qui méritent qu'on les accompagne et qu'on les aide à prendre un peu leur essor sur la scène médiatique.
Et leur élan et rencontrer le public, parce que finalement,
exactement,
c'est peut-être l'un des enjeux, c'est rencontrer le public, comment faire, et vous le faites avec votre compte Instagram.
Tout à fait, et c'est aussi l'objectif du carnet, essayer de... Je me sers aussi de ma propre expérience, et que j'aimais beaucoup la poésie, mais j'ai eu du mal à y entrer, parce que je trouve que quand on pioche un recueil au hasard en librairie et qu'on met le nez dedans, si on n'a pas l'habitude, ça peut être un peu, on peut être un peu refroidi. Et donc, je trouvais qu'il manquait des outils ou des ponts comme ça entre un regard pas averti et la littérature poétique.
Donc, la poésie, ça peut se scroller aussi. Adrien, elle n'est pas sur Insta, mais sur le site de RFI et de RFI Français Facile. C'est Lucie Bouteloup et c'est la puce.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal.
Je vous attendais et des millions d'auditeurs avec moi.
Ah bah rien que ça. Évidemment, il faut dire que je suis la coqueluche de votre émission, n'ayons pas peur des mots.
Mais c'est une maladie ça.
Une belle maladie, vous allez voir. Alors être la coqueluche de quelqu'un, l'expression ne date pas d'hier, mais vous allez l'entendre, son origine est aussi inattendue que réjouissante. On en parle tout de suite avec le linguiste Daniel Lacotte et des ados qui travaillent du chapeau.
Bah, être la coqueluche de quelqu'un, pour moi, c'est être un peu la personne qui amuse tout le monde. Parce que coqueluche, je trouve que c'est un mot assez loufoque, donc ça me fait rire. Donc je pense que ça veut dire amuser un peu tout le monde et être drôle.
C'est être une personne qui est connue. Par exemple, mon pote, par exemple, je suis sa coqueluche, ça veut dire un peu... Je donne un exemple. Je suis son plus grand fan, je suis sa personne qui l'adore et tout ça.
Pour moi, être la coqueluche de quelqu'un, c'est un peu être le virus de quelqu'un. C'est un peu ce qui l'empêche de faire des choses. Parce que coqueluche, ça veut dire maladie. Donc je pense que ça peut être le virus un peu de quelqu'un qui l'empêche d'accomplir des choses.
La
la puce à l'oreille, ta 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 ta.
Alors, Daniel Lacote.
Ouais, ils sont trop, ces gamins, quoi.
Une réaction à ces propositions, justement.
Alors, la coqueluche, c'est une quinte de tout.
Oui, c'est une maladie infantile qui est extrêmement contagieuse. Hein.
Très grave.
Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette expression, être la coqueluche de quelqu'un?
Alors, être la coqueluche de quelqu'un, ça veut dire, en fait, être amoureux de quelqu'un. Alors pourquoi
être le préféré aussi. Pas forcément amoureux, c'est
non,
être le préféré, le favori.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Être la coqueluche, c'est-à-dire quelqu'un vers qui on va aller le plus souvent.
Être admiré,
tout ça, on ne peut pas s'en passer.
Donc on peut se demander quel est le lien entre le fait d'être le préféré et cette maladie infantile, peut-être à part le fait qu'il y ait une contagiosité de l'engouement pour une personne. Il n'y a pas de lien véritable.
Il n'y a pas de lien. La coqueluche là, n'a rien à voir. J'ai connu un chat qui avait la coqueluche. Plein de chats à la maison. Il avait la coqueluche. Et il est entré dans une pharmacie. Et il a dit à la pharmacienne, « Bonjour, madame la pharmacienne. Je voudrais du sirop pour ma toux. »
Elle est très bonne. Mais de quelle coqueluche s'agit-il?
Alors, c'est la coiffe, Lucie. Parce qu'on disait qu'on est coiffé de quelqu'un. Et bon, c'est la déformation, coqueluche, c'est la déformation de la coiffe, en fait.
Donc, c'était un petit bonnet. Que portaient les femmes.
Oui.
C'est un petit capuchon. Ouais. Et donc, on est à quelle époque?
Ah, ben, c'est le Moyen-Âge. Hein.
C'est le Moyen-Âge.
Et c'était les nonnes, hein, dans les béguines, notamment belges. Hein,
alors, les béguines, justement, ce qui a donné l'expression aussi, avoir le béguin.
Le béguin.
On est coiffé d'une femme, comme vous l'évoquiez à l'instant.
Voilà. Être coiffé d'une femme, là, ça voulait dire être sacrément amoureux.
Oui.
Hein. Ça voulait dire, là, on est vraiment coiffé d'une femme.
En même temps, c'est très parlant, on l'a en tête.
Oui, bien sûr.
Comme on a son bonnet sur sa tête, comme on porte son bonnet, on porte aussi le poids de son désir et de son
bien
attirance
sûr.
Pour une femme qui nous entête.
Bien sûr, bien sûr. Avoir la tête près du bonnet. Bon, c'est...
Non, alors ça ne veut pas du tout dire la même chose.
Non, c'est pas du tout.
Qu'est-ce que ça veut dire, avoir la tête près du bonnet, Daniel Lacote?
Déjà, la tête, c'est déjà pas mal quand on a une tête. Et quand on a la tête près du bonnet, ça veut dire qu'on est très intelligent. Enfin, voilà, en gros, c'est ça.
Donc, on est au Moyen-Âge, quand la coqueluche désigne le bonnet. Mais l'expression en elle-même, elle est utilisée à partir de quand?
C'est relativement récent. Hein. C'est quand même 19e. Hein. C'est pas au-delà, à mon avis. Hein, mais voilà.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce fameux bonnet, cette coqueluche, a disparu, mais que l'expression est restée. Et elle est d'ailleurs encore très utilisée encore aujourd'hui.
Oui.
Alors en Espagne, on n'est pas la coqueluche, on est le petit bijou de quelqu'un, où on est l'œil droit de quelqu'un, comme si l'œil droit était la chose la plus précieuse.
Oui.
Aux États-Unis, on dit qu'on est « the apple of someone's eyes », on est la pomme dans l'œil de quelqu'un, c'est-à-dire l'objet de son désir.
Oui, pourquoi pas.
Merci Daniel Lacote d'être venu éclairer notre lanterne. Cette expression ainsi que plein d'autres sont à retrouver dans votre ouvrage Les expressions les plus truculentes de la langue française. Mais votre actualité, c'est la parution de ce nouveau titre Au bonheur des mots les plus truculents de la langue française. Deux livres donc qui sont parus aux éditions du Larousse. Merci et à très bientôt autour d'une nouvelle expression.
Merci Lucie.
Merci Lucie. Adrien, que vous inspire ce mot coqueluche? Est-ce que le poète que vous êtes part avec ce mot?
Eh bien écoutez, coqueluche pour moi c'est un son, c'est le son huche, comme dans peluche, c'est quelque chose qui sonne tout doux à mes oreilles. Et parce que la poésie c'est aussi ça, des sons, des mélodies qui résonnent dans nos oreilles et qu'on n'oublie pas.
Vous êtes sûr que vous n'êtes pas nostalgique?
Je suis sûr.
Mais vous avez des peluches chez vous. Merci beaucoup, Adrien. J'avais oublié que c'était beau est édité donc chez Solar. C'est un carnet d'expériences poétiques. Votre compte Insta, c'est crottinverbeau au pluriel. 92 000 abonnés. Et puis, il y a donc cette soirée le 22 mars à la Gaîté Lyrique, le Poetry Club, avec une dizaine de poètes contemporains qui s'inscrit dans cette manifestation, le Printemps des Poètes, qui se déroule jusqu'au 29 mars, un peu partout en France. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo et Yasmine Boulan, Laura Pinto à la réalisation, et on se retrouve demain, comme d'habitude, même fréquence, même heure.